Le printemps approche, c'est la semaine prochaine. Si vous souhaitez l'accueillir ce printemps comme il se doit, nous vous avons trouvé l'album qu'il vous faut. 6,5 des Innocents. Cet album sort demain, c'est un festival de mélodies pop, rock, folk, parfaitement troussé. C'est une balade à travers ce nouvel album qu'on vous propose dans France Bleu Soir. Bienvenue à vous. On est ravis de vous avoir avec nous, les Innocents, dans quelques instants, après le journal de Frédéric Dorel.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
Il y a deux nappes de pétrole au large de La Rochelle.
Résultat du naufrage du Grande America, deux nappes qui avancent lentement. Elles pourraient n'arriver sur le littoral que d'ici 7 à 10 jours. Mais dans le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs se préparent. Les jeunes ouvriront les marches pour le climat demain, avant les grands rendez-vous de samedi. Certains sont même très jeunes, comme Sophia, cette élève de CM1 qui manifestera demain à Strasbourg.
Les violences conjugales continuent de tuer en France.
Le dernier chiffre officiel fait état de 109 femmes tuées par leur conjoint. Nous serons en direct avec Françoise Brié, la directrice de Solidarité Femmes. Le grand débat place maintenant aux conférences citoyennes animées par des citoyens tirés au sort. Elles ont du mal à faire le plein. Le foot et Rennes qui tentera ce soir de sauver l'honneur de la France en Coupe d'Europe face aux Anglais d'Arsenal. Nous appellerons Sarah Mansoura à Londres. Et puis donc vous recevez les Innocents ce soir, Arnold.
Absolument, nous avons ce plaisir avec JP Nataf, Jean-Christophe Urbain. Ils sont là. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Ça va le duo des Innocents, tout se passe bien?
Pour l'instant, oui. Ouais,
avec
oui,
de la sortie du nouvel album, tout roule.
Printemps J-7 et l'album H-4.
Moi, je suis. Ouais.
Vous comptez beaucoup en fait.
On va compter beaucoup.
On va réviser.
Il faut compter, mais on a du mal.
Ok. Bah, d'abord le journal et on compte tous ensemble.
France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Réduire l'impact de la pollution, c'est l'objectif de l'État après le naufrage du Grande America dimanche.
Des avions de reconnaissance évaluent depuis ce matin l'ampleur de la catastrophe. Des navires anti-pollution pourraient également être appelés à la rescousse pour pomper ou bloquer le fioul si les conditions météo le permettent. À Brest, Valérie Lenigène.
Il y a désormais deux nappes, l'une de 13 km de long sur 7 de large et à 20 km, une deuxième de 9 km de long sur 7 km de large. Et bonne nouvelle, elle dérive plus lentement que les premières estimations. Stéphane Doll, le directeur du CEDRE, le centre anti-pollution.
On s'aperçoit que la dérive est autour d'une vingtaine de nautiques par jour. On est au 35 km, si vous voulez, on est à 353 km. De la côte. C'est pas tout de suite. On se reverra dans quelques jours, après, en milieu de semaine prochaine.
Actuellement, il y a des vagues de 6 mètres qui peuvent rendre difficile l'installation des barrages flottants pour pomper le fioul. Mais d'ici quelques jours, on devrait profiter de meilleures fenêtres météo qui vont permettre aux 4 navires anti-pollution engagés dans l'opération de pomper un maximum de fioul. Ils se feront aider par un drone en plus des moyens aériens habituels. C'est une opération d'envergure. Mais François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, précise que l'ensemble des coûts seront à la charge de l'armateur.
C'est la règle, nous y veillons. L'armateur est mis en demeure de conduire un certain nombre d'actions. Lorsqu'il ne le fait pas, ce sont les services de l'État qui prennent le relais et qui, bien sûr, feront payer les frais à la charge de l'armateur.
Une enquête sur les responsabilités est également déjà ouverte par le parquet. L'équipage, qui est toujours à Brest, est entendu par la gendarmerie.
Valérie Lenigène, France Bleu, Brésisel. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, se rendra sur la zone du naufrage demain à bord d'un navire anti-pollution.
Et les pêcheurs, de leur côté, se disent prêts à aider.
Ils attendent les éventuelles directives, si jamais la mer et le gros temps envoient du pétrole dans les ports et les estuaires. Et dans le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs se souviennent de la marée noire du prestige. Olivier Laban est d'entre eux.
On a le sentiment de revenir 17 ans en arrière. Alors certains diront les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut savoir que nous, finalement, le bassin d'Arcachon, c'est un écrin. Il est plutôt assez bien préservé. Cette passe si redoutée, finalement, elle n'est pas très large. Pour le prestige, on n'a pas eu de chance. Hein. On ne pensait jamais que les boulettes rentreraient dans le bassin d'Arcachon. Et finalement, elles étaient rentrées. Le banc d'Arguin avait été le premier touché. Donc aujourd'hui, on ne peut rien dire. On ne peut qu'attendre. En tout cas, peut-être l'avantage que l'on a sur cette pollution, c'est qu'on l'a déjà vécu. Le plan Polmar l'avait largement souligné. C'était la première fois qu'il y avait une telle implication des professionnels de la mer, que ce soit les pêcheurs, les ostréiculteurs, pour œuvrer à la dépollution. Alors bon, voilà, l'heure n'est pas à tirer non plus la sonnette d'alarme et à faire du catastrophisme. Peut-être que finalement ça va être pompé au large, peut-être que ça va se diluer malheureusement dans l'océan et peut-être que ça n'atterrira pas chez nous. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut qu'on reste vigilant.
Olivier Laban, ostréiculteur à Gujan-Mestra dans le bassin d'Arcachon. Pour relativiser, le Prestige contenait 20 fois plus de fioul que le Grande America aujourd'hui.
Attention, si vous skiez dans les Alpes, le risque d'avalanche est très fort de nouveau.
Oui, à cause d'un redoux ajouté à de nouvelles chutes de neige, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange.
Le climat sera au centre de l'actualité, au moins jusqu'à samedi.
Ce matin, les 4 ONG de la pétition L'Affaire du siècle ont saisi la justice pour obliger l'État français à agir.
Samedi, c'est la marche du siècle pour le climat, ou plutôt les marches. Près de 200 événements sont prévus dans tout le pays.
Mais avant cela, demain, les jeunes donneront le ton, Sophia notamment. À 10 ans, cette petite Strasbourgeoise est déjà tous les mercredis devant le Parlement européen.
Vers mes 6-7 ans, j'étais allée à la neige. Dans la montagne, et là, il n'y avait pas de neige. J'étais venue pour luger. Du coup, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi il n'y a pas de neige? Ben, il m'a expliqué que c'est à cause de la pollution et du réchauffement climatique. Du coup, j'étais triste et je me suis dit qu'il ne faut pas laisser la Terre en réchauffement climatique. En fait, j'aimerais dénoncer l'inaction du gouvernement parce qu'ils ne font rien pour la planète et ils ne se rendent pas compte que leur planète, elle est en train de se réchauffer énormément, donc faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Faut une loi sévère, parce que c'est quand même notre planète, faut en prendre soin.
Sophia, en CM1 seulement, mais déjà animée de solides convictions.
L'État recherche 16 000 logements pour installer des réfugiés.
Comme l'an dernier, où 19 000 migrants ont pu être installés, il faut trouver des adresses pour 19 000 autres étrangers. Il manque notamment plus de 2 000 logements dans le Grand Est et autant en Auvergne-Rhône-Alpes.
À l'étranger, un nouvel épisode ce soir dans le feuilleton du Brexit.
Les députés britanniques doivent dire s'ils veulent demander un report de l'échéance du 29 mars à l'Europe, échéance qui est à 15 jours maintenant. Côté français, les douaniers sont toujours en grève du zèle, ce qui a provoqué aujourd'hui plusieurs kilomètres de ralentissement en direction d'Eurotunnel au niveau de Calais.
19h07, le journal se poursuit dans un instant. On vous parlera du grand débat deuxième acte. Des conférences citoyennes vont maintenant avoir lieu, même si c'est un peu compliqué à organiser, comme nous le dira Nicolas Ballu.
Oui.
La France a encore un club en Coupe d'Europe, c'est Rennes qui rencontre les Anglais d'Arsenal. Ce soir, on parle de foot, hein, évidemment. Sarah Mansoura nous appellera de Londres, mais d'abord, Frédéric, les violences conjugales tuent toujours autant en France. 109 femmes sont mortes en 2017.
C'est le dernier chiffre officiel. Il est identique à celui de 2016 et un tout petit peu plus faible que celui de 2015, année pendant laquelle 115 de nos concitoyennes ont été tuées. Françoise Brier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la Fédération Solidarité Femmes qui regroupe 67 associations et vous dites qu'il y a eu bien plus que 109 femmes tuées en 2017.
Oui, tout à fait. Si on compte les couples non officiels dans le cadre de relations qui ne sont pas dans la durée, on est à 130 femmes tuées en 2017. Voilà, qui est un chiffre effectivement qui est à peu près identique à l'année précédente. Donc on a effectivement une stagnation de ces chiffres depuis 2014.
Donc 130 décès si on compte les femmes victimes de leurs petits copains, hein, plus ou moins occasionnels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui reste à faire?
Je pense qu'il faut absolument que nous puissions d'une part renforcer les dispositifs spécialisés, à savoir toute la chaîne qui va être en contact avec les femmes victimes de violences,
depuis pour les accueillir.
Effectivement les services d'urgence, par exemple, les brigades, les services de police et de gendarmerie, au niveau des tribunaux en matière pénale et civile, et puis bon, renforcer aussi les dispositifs spécialisés des associations. Il faut comprendre qu'une situation de violence conjugale, c'est une situation très complexe, avec beaucoup de conséquences différentes, multiples, sur lesquelles il va falloir activer un certain nombre de réponses. Et puis, il faut aussi accompagner les femmes dans la durée vers la sortie de la violence au plus tôt. On sait qu'elles sont dans un système d'emprise, d'aller-retour, de cycle de la violence, et c'est parfois compliqué pour elles aussi de quitter le domicile. Donc il faut être au plus tôt, dès que les premiers signes de violence se manifestent, qu'elles puissent aussi solliciter soit la ligne d'écoute 3919, soit les associations spécialisées, soit d'autres professionnels, pour recréer autour d'elles voilà, des professionnels qui vont pouvoir les soutenir dans leur démarche.
Et donc dans les professionnels, comme vous disiez, hein, créer des pôles violence conjugale avec des juges spécialisés, par exemple, parce que chaque dossier est différent. On parle aussi davantage de places d'accueil, mais pourquoi faire déménager les femmes? Pourquoi ça n'est pas aux hommes plutôt de partir quand ils sont violents?
Il y a plusieurs raisons. D'une part, effectivement, il y a des dispositifs dans la législation qui permettent de prendre des décisions comme l'éviction du domicile ou l'attribution du domicile, qui sont insuffisamment encore utilisés. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la question que lorsque les femmes se retrouvent dans le domicile où elles ont vécu des traumatismes et aussi où elles savent qu'elles vont peut-être être à nouveau en danger parce que leur agresseur sait où elles se trouvent, ça peut aussi être un frein, dans le fait de rester effectivement dans ce domicile. Et donc, dans nos centres d'hébergement spécialisés, l'adresse est confidentielle, nous ne donnons jamais les adresses, tout est anonyme, de façon effectivement à ce qu'elles soient en sécurité dans des lieux où leur protection est en général bien assurée.
Donc, quelquefois, c'est à la demande des femmes. Merci Françoise Brillé. On rappelle le numéro à retenir si l'on est victime de violences conjugales, c'est le 3919. Vous êtes directrice générale de Solidarité Femmes. Merci de ces explications sur France Bleu.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Tout porte à croire à un drame de la séparation à Gou-Rossignol en Dordogne. Deux petites filles et leur père ont été retrouvés morts.
Dans la même pièce de leur maison, mais pas d'armes à leur côté, la maman des enfants âgés de 6 et 8 ans vivait séparée du père depuis peu.
Le grand débat national suite et fin. À partir de demain, on aborde la phase des conférences citoyennes.
Le site internet, les cahiers de doléances et les 10 000 réunions de débat ont donné lieu à des millions de données qu'il va falloir décrypter et trier, tandis qu'auront lieu ce week-end, les premières conférences citoyennes des assemblées qui devaient être animées par 100 citoyens chacune, tirées au sort. Mais c'est plus compliqué à faire qu'à dire, Nicolas Ballu.
Oui, parce que la plupart du temps, ces personnes ne veulent pas venir. C'est l'Institut Harris qui s'est chargé de l'opération. Vous téléphonez au hasard, puis vous appliquez des critères d'âge, de sexe, de taille de résidence, des critères géographiques. Et au final, 75 000 numéros appelés, selon Harris. Et à peine 100 personnes par conférence. En fait, la jauge ne sera pas pleine. En cause, beaucoup d'impossibilité de se libérer le jour J, mais aussi la défiance vis-à-vis du processus du grand débat et vis-à-vis des leçons que va en tirer le pouvoir. Signe que cette défiance persiste. Signe peut-être également d'une lassitude. Qui n'a pas entendu parler du grand débat, voire entendu Emmanuel Macron face aux élus? Alors, pourquoi ces conférences par tirage au sort? C'est une méthode de démocratie participative. Par exemple, dans la Grèce antique, on l'utilisait pour désigner les représentants publics. Cela permet à l'exécutif de dire qu'il utilise des méthodes démocratiques que ne renieraient pas les gilets jaunes. Le problème, c'est qu'en France, on est plus prompt à manifester qu'à participer à l'action publique.
Merci Nicolas Ballu.
Philippe Barbarin sera reçu lundi par le pape François à Rome.
Comme il l'a dit juste après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat, l'archevêque de Lyon va remettre sa démission.
Les gardiens de prison étudient des propositions de la ministre Nicole Belloubet.
Leur syndicat FO pénitentiaire souligne des avancées timides. Après la rencontre d'aujourd'hui, le matériel de sécurité serait adapté à la dangerosité des détenus qui seraient regroupés par profil dans les différents établissements. En revanche, dit FO, sur le statut et la rémunération, le compte n'y est pas.
Si vos enfants ou vos petits-enfants jouent avec du slime, vérifiez-en la marque.
La direction de la consommation et de la répression des fraudes rappelle une pâte appelée Barrel au slime de la marque LG Import. Elle contient des produits chimiques au-delà des limites autorisées.
Une page foot à présent. Rennes joue chez les Anglais d'Arsenal ce soir.
C'est le match retour de ses huitièmes de finale en Ligue Europa. Et après les éliminations du PSG et de Lyon en Ligue des Champions, les Bretons sont nos ultimes représentants en Coupe d'Europe. Alors, parviendront-ils à maintenir l'avantage de l'aller? Sarah Mansoura, c'est la question ce soir.
Oui, effectivement, c'est la question. Rennes est quand même bien parti pour se qualifier en quart de finale de Ligue Europa. En résumé, il leur suffit d'un match nul, voire d'une défaite par un but d'écart pour passer au tour suivant. Le premier acte de cette confrontation, c'était jeudi dernier, quand ils se sont imposés 3-1 sur leur terrain au terme d'un match épique. Et bien pour ce second acte, il va falloir qu'ils rééditent la même performance au moins. Car même avec 2 buts d'avance, même avec ses statistiques favorables, eh bien ce sera une autre confrontation bien plus difficile dans l'antre des Gunners d'Arsenal qui seront extrêmement revanchards. Ils vont jouer aussi sur un terrain inconnu pour eux dans un stade de 60 000 places, soit 2 fois le Roazhon Park rennais. Mais les Bretons sont en confiance, ils seront poussés du bord de la pelouse par un parcage de 5 à 6 000 supporters rouges et noirs qui ont pour certains sacrifié beaucoup pour arriver jusqu'ici à Londres. On les entendait déjà tout à l'heure dans les rues, on les entendra certainement encore plus dans le stade parce que c'est le rêve d'une vie pour beaucoup de supporters, voir enfin les rouges et noirs dans l'élite des clubs européens.
Merci Sarah Mansoura, France Bleu Armorique, en direct de Londres où se trouve le club d'Arsenal. Coup d'envoi de ce Arsenal-Rennes à 21h, Arnold.
Merci beaucoup Frédéric Dorel pour toutes ces informations. Juste avant le foot, hein, un peu de douceur, de mélodie avec les innocents que nous recevons. Messieurs, vous êtes prêts?
Ça y est, l'échauffement, d'accord.
Alors on va vous laisser la météo pour vous échauffer parce que l'album sort demain. On va le découvrir ensemble jusqu'à 20h. Cet album intitulé 6,5, mais pour l'heure, la météo.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.